Radio Okapi.
Troisième mandat, la ligne rouge n'en est pas franchie pour tout locataire du Palais de la Nation. Kabila a été stoppé dans cet élan, il en sera de même pour Félix Tshisekedi. Sans résumer, la réaction du leader de l'Amouka hier à la sortie médiatique du chef de l'État. Martin Fayoulou annonce une mobilisation au populaire pour contrer toute tentative de prolongation du pouvoir. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a vécu hier 8 mai. Son thème, unis dans l'humanité. Hommage aux volontaires, plaidoyer pour le respect de l'emblème de la Croix-Rouge et appel à davantage de solidarité. Voilà l'essentiel des messages de cette journée alors que le pays connaît de nombreuses crises. La récente sortie médiatique du chef de l'État, nous y reviendrons aussi avec notre invité. Il s'agit de Joseph Nkoy, député national, rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité et membre de l'Union Sacrée. Troisième mandat, révision de la Constitution et scrutin de 2028. Il aborde tout cela avec Grace Amzati. Voilà, monsieur, bonjour. Martin Fayoulou brise le silence 2 jours après la conférence de presse du président de la République. Hier vendredi à Kinshasa, le leader de l'Amouka a vivement réagi aux propos du chef de l'État sur un possible troisième mandat. Face à la presse et à ses militants, l'opposant a rappelé que cette option avait déjà été rejetée par le peuple congolais à l'époque de Joseph Kabila. Il annonce une mobilisation au populaire pour contrer toute tentative de prolongation du pouvoir. Et la Chimbalou nous en dit plus.
La question d'un éventuel troisième mandat continue de susciter de vives réactions dans la classe politique congolaise. Martin Fayoulou a répondu de manière directe aux récentes déclarations du chef de l'État faites lors de son point de presse. Pour le leader de la Mouka, les articles 87 annonces des lois en débat ne sont rien de moins une entorse grave à l'ordre constitutionnel. Martin Fayoulou.
Et j'avais dit à Kabila, avec lui tu sais qui dit, ensemble, nous nous sommes battus. On a dit à Kabila, la ligne rouge c'est le troisième mandat. Vous n'aurez pas. Tshisekedi ne l'aura pas. Parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Après Dieu, c'est le peuple. Et ce peuple a décidé que jamais il y aura quelqu'un dans ce pays qui fera un troisième mandat.
Martin Fayoulou ne s'arrête pas là. Il annonce une mobilisation populaire pour faire échec à toute tentative de maintien au pouvoir au-delà des limites constitutionnelles.
Et nous allons mobiliser et je serai devant le peuple congolais pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi pour son troisième mandat.
Cette sortie médiatique de Martin Fayoulou intervient dans un climat politique de plus en plus tendu, où les débats autour du changement ou de la révision de la Constitution occupent désormais les devants de la scène.
Le président de l'Assemblée nationale dénonce l'insécurité visant des ressortissants africains dans des Congolais vivant en Afrique du Sud. Dans sa communication lors de la plénière de jeudi, il affirme que plusieurs Congolais établis dans ce pays sont victimes d'actes de xénophobie, de discrimination et parfois de violence. Face à cette situation jugée préoccupante, le président de la Chambre basse du Parlement annonce le déploiement prochain d'une mission parlementaire en Afrique du Sud. Objectif, évaluer la situation. On écoute Aimé Bojisangara au micro de Grace Amzati.
Ces comportements contraires aux valeurs africaines de solidarité et de fraternité portent atteinte à la dignité humaine ainsi qu'au principe de libre circulation et d'intégration consacrés sur le continent africain. À cet effet, votre bureau a pris l'initiative d'inviter le gouvernement, à travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à venir éclairer la lanterne de la représentation nationale au sujet de cette situation préoccupante. Par ailleurs, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, il serait opportun qu'une délégation parlementaire de la République démocratique du Congo soit dépêchée en Afrique du Sud afin d'engager des consultations avec leurs homologues sud-africains en vue d'échanger de manière constructive sur la protection des ressortissants congolais et le renforcement de la coopération entre les deux nations.
L'Assemblée provinciale du Maniema s'est positivement prononcée pour l'interpellation du gouverneur de province, Moïse Moussa Kabankoubi. Cela a eu lieu au cours de la plénière d'hier vendredi 8 mai. C'est le député provincial Amissi Abdallah Tchopé qui a initié cette interpellation. Cet élu de Kabambaré veut des explications sur la gestion des fonds secrets de recherche, les fonds perçus par la taxe conventionnelle ainsi que les fonds de solidarité scolaire que les parents payent. Florence Kizalunga, reportage.
C'est dans un climat très agité que la plénière s'est clôturée après que le président de l'Assemblée provinciale ait déclaré l'adoption de cette interpellation. Ceux qui étaient contre déplorent la façon dont le président de l'organe délibéra a agi. Blaise Bitangalo est l'un d'eux.
Le gouvernement ne viendra pas parce que sur 22 personnes que nous constituons l'Assemblée provinciale du Maniema, 13 ont voté contre l'arrivée du gouverneur. On n'est pas contre son arrivée, mais parce qu'on n'a pas respecté la procédure. Quand on ne respecte pas les règlements, on ne peut pas s'amuser d'en faire ce qu'on veut. C'est le temple de la démocratie et c'est la démocratie qui doit triompher. Le président est notre émanation. Si c'est mécompromis, il sera sanctionné.
Pour ceux qui soutiennent cette interpellation, il est juste question pour le gouverneur de venir éclairer la lenteur des élus du peuple. On écoute le député Ngongo Kitenge.
Moi, je fais partie des députés qui acceptent que le gouverneur passe à la représentation provinciale pour expliquer à la population les bien fondés de toutes ces questions-là. Les collègues interpellent le gouverneur pour trois faits. Ils demandent au gouverneur de venir parler des taxes conventionnelles, les fonds de solidarité. Un autre fait, c'est le cas des infrastructures.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction la province du Tanganyika. Le bourgmestre de la commune de Lukuga, Kalemi, réagit à la motion de défiance qui le vise. Motion initiée par le conseiller communal Robert Moussamia. Dans une déclaration mercredi, le bourgmestre Joseph Zidi souligne que cette motion bafoue la note circulaire du ministre de l'Intérieur, document relatif aux rapports administratifs entre conseils et exécutifs communaux. D'amples explications avec Paula Munanga.
Dans cette note circulaire qui date du 22 avril dernier, les ministres de l'Intérieur soulignent que suite au non-parachèvement du processus électoral au niveau local, l'administration territoriale congolaise est confrontée à la coexistence des deux régimes administratifs au niveau des organes des communes. Il s'agit des conseils communaux issus des élections locales et des exécutifs communaux issus de la nomination. La note circulaire précise qu'en cas de faute grave constatée dans les chefs des bourgmestres et leurs adjoints, le conseil communal est tenu de saisir immédiatement le ministre de l'Intérieur qui exercera son pouvoir hiérarchique sur l'organe ou l'acte concerné. En outre, le bourgmestre de la commune Lukuga rejette les allégations contenues dans la motion de défiance. C'est notamment l'insécurité, l'insalubrité et le manque du dépôt du budget communal. Jean Kasongo, représentant du bourgmestre, s'exprime en son nom.
L'insécurité dont il nous parle, mais cela ne relève pas de la compétence de l'exécutif d'une commune. Il y a un ministre en charge de la sécurité au niveau de notre province. Il parle d'insalubrité. Le conseiller savent que chaque jeudi, il y a un salongo qui se passe dans la commune de la Lukuga.
Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a vécu hier 8 mai son thème « Unis dans l'humanité ». À cette occasion, les responsables de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo ont rendu hommage aux volontaires engagés auprès des populations vulnérables. Réunis à Kinshasa, ils ont également plaidé pour le respect de l'emblème de la Croix-Rouge, aussi pour le renforcement du soutien aux actions humanitaires dans un contexte marqué par plusieurs crises à travers le pays. Le point avec Christian Makasinga.
Si au fleuve Congo OTLK a été célébrée ce jeudi la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une activité organisée par la Croix-Rouge de la RDC pour rappeler le rôle essentiel du volontaire dans l'assistance humanitaire auprès de communautés affectées par le conflit, les catastrophes et les épidémies. Dans son intervention, le président national de la Croix-Rouge de la RDC, Grégoire Matisso, a lancé un appel à la solidarité en faveur de populations en détresse.
À cette journée mondiale de la Croix-Rouge, sous les thèmes inspirants unis dans l'humanité, je lance un appel solennel à la solidarité et à l'action. La situation humanitaire en République démocratique est critique et la Croix-Rouge, avec ses partenaires, ne peut y faire face seule et demande certainement un renforcement du financement de l'action humanitaire.
Au cours de cette rencontre, les volontaires ont également insisté sur l'importance de protéger l'emblème de la Croix-Rouge, souvent utilisé de manière abusive sur les terrains.
Il faut que cet emblème soit protégé. À la population, c'est de faire confiance à la Croix-Rouge, parce que au moins dans chaque village de la RDC, on trouve un volontaire.
Face à l'ampleur de besoins humanitaires dans le pays, les responsables de cette organisation appellent la population ainsi que le partenaire à soutenir davantage les actions menées par les humanitaires au sein de communautés.
Restons à Kinshasa aux femmes, jeunes, autorités et acteurs de la société civile ont pris part hier vendredi à un colloque consacré aux efforts des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et la nouvelle citoyenneté. L'activité a été organisée au site de la MONUSCO du Texafrica. Lequel des pays a été présente?
Les intervenants ont appelé à une prise de conscience collective face aux défis que traverse actuellement la République démocratique du Congo. Di Martina Berinho, spécialiste genre à la MONUSCO, a notamment insisté sur la nécessité d'impliquer davantage les femmes et les jeunes dans les mécanismes de prévention des conflits et dans les initiatives favorisant les vivre ensemble.
Chaque jeune, chaque femme peut apporter de la voix, peut contribuer en termes de solutions à ces différentes crises. Et il faut le dire, c'est pas seulement c'est des conflits à la fois armés, mais aussi des conflits intercommunautaires. Et il faut prendre tout ça en compte dans les initiatives et même dans les propositions de solutions que nous apportons.
Pour sa part, Carbone Béni, activiste pro-démocratie, a appelé la jeunesse congolaise à se départir des discours de haine et à s'impliquer davantage dans la promotion de l'unité nationale.
C'est des parties de tout message et discours de haine. Que la jeunesse comprenne que si elle n'agit pas aujourd'hui, l'avenir de ces pays est bâclé.
Initié par la fondation Calix Munana et Youth Action for Development and Peace, en collaboration avec l'ambassade de la jeunesse congolaise, ce colloque a permis de renforcer l'engagement citoyen des jeunes et des femmes pour une paix durable en République démocratique du Congo.
En séjour à Bruxelles, en Belgique, le ministre des Droits humains appelle la diaspora congolaise à se mobiliser en faveur de la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo. Samuel Mbemba exhorte les Congolais à devenir de véritables ambassadeurs de cette cause afin de faire entendre la voix des victimes sur la scène internationale. Dans une déclaration jeudi devant des Congolais vivant en Europe, il a également réclamé des sanctions contre le régime de Kigali. Suivez un extrait de l'intervention de Samuel Mbemba, une sélection de Blaise Chindani Kambala.
La RDC est agressée par le Rwanda. Deuxième évidence, c'est depuis janvier 2025. Que notre territoire est occupé par des troupes rwandaises. Résolution, c'est bon, mais il est temps que l'Union européenne puisse rejoindre les États-Unis d'Amérique. Nous avons demandé à l'Union européenne de reconnaître les génocides commis en République démocratique du Congo. Je vais citer maintenant pour demander à notre diaspora d'impliquer. Cette affaire ne concerne pas que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette affaire nous concerne tous. Vous êtes dans des associations, dans des églises, là où vous travaillez, vous savez faire les lobbying. Parlez des génocides commis. Demandez au monde casser son silence assourdissant, d'arrêter avec des solutions qui ne nous aident pas.
À travers cette démarche, le ministre des Droits humains a dit réaffirmer la détermination du gouvernement congolais à faire entendre la voix des victimes des massacres perpétrés dans l'est du pays. Il s'agit aussi de mobiliser la communauté internationale afin que justice soit rendue au peuple congolais. À Bunia en Ituri, l'identification et la numérotation des mototaxis deviennent désormais obligatoires. Le lancement officiel de cette opération est intervenu mercredi dans la commune de Mbunia, choisie comme zone pilote. Selon le bourgmestre de cette entité municipale, cette initiative vise à renforcer la sécurité et à améliorer la mobilisation des recettes locales. Notez que des structures de jeunes saluent cette mesure et plaident pour son extension dans toutes les communes de la ville. Il y a afflux d'audits, Martial Kizabiamungu.
Des conducteurs moto-taxi affluent depuis mercredi au bureau administratif de la commune de Mbunia pour faire identifier leurs engins et obtenir un numéro d'ordre. Selon le bourgmestre de cette commune, le commissaire supérieur Jean-Marie Fouamba Kashimata, cette campagne poursuit un double objectif. Il s'agit d'une part de mieux identifier chaque moto-taxi opérant dans l'entité pour des raisons sécuritaires. D'autre part, de renforcer la mobilisation des recettes locales conformément au budget en cours d'exécution. L'autorité municipale précise, je cite, cette taxe de numérotation fixée à 12 000 francs congolais par an permettra à notre entité de réaliser des projets de développement au bénéfice de la population. Les associations des conducteurs de motos, taxis saluent cette initiative et promettent de sensibiliser leurs membres afin qu'ils adhèrent massivement à cette opération. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Rwanda, des voix appellent à une enquête indépendante après le décès en prison jeudi, le jour de sa libération, de l'artiste Aimable Karasira, critique du régime de Kigali. Aimable Karasira avait été condamné le 30 septembre dernier à 5 ans de prison pour incitation à la division. Cette condamnation est intervenue après plus de 4 ans de détention et dénoncé sur sa chaîne en ligne des violations de droits de l'homme au Rwanda. Officiellement, l'artiste est décédé après une overdose de son traitement de troubles mentaux, mais la thèse est déjà contestée par des organisations de droits humains. Celle-ci affirme que sa mort rappelle celle du musicien gospel Kizito Mihigo en février 2020 en prison. Le suicide avait été présenté comme cause de son décès.
L'invité.
Il s'agit de Joseph Koy, député national élu de Katakokombe, rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il est membre de l'Union sacrée de la Nation. Avec lui, nous revenons sur la récente sortie médiatique du chef de l'État, notamment sur des questions sécuritaires liées à la guerre dans l'Est du pays, mais aussi sur les enjeux politiques autour d'un éventuel troisième mandat, de la révision de la Constitution et de la tenue des élections de 2028. Joseph Koy s'entretient avec Grace Hamzati.
Joseph Koy, bonjour.
Bonjour, Monsieur Grace Hamzati.
Le président de la République estime que la guerre reste un obstacle majeur à la stabilité du pays. Concrètement, quelle nouvelle stratégie la majorité compte-t-elle mettre en œuvre pour restaurer durablement la sécurité dans l'est de la RDC?
C'est avec raison que le chef de l'État note que la guerre est un obstacle majeur à la stabilité du pays, puisqu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est stabilisé, qui s'est construit, qui s'est développé, alors qu'il fait l'objet d'une agression de la part de son voisin. Et en termes de stratégie, le chef de l'État a noté qu'il est en train de jouer sur tous les fronts, il est en train d'utiliser toutes les manettes pour juguler efficacement et définitivement cette question d'insécurité à l'est de la République. Comme vous le savez, sur le plan diplomatique, le chef a déployé suffisamment d'efforts et continue à les déployer. Et vous savez que ces efforts sont en train déjà de porter leurs fruits. Et les gouvernements de la République dirigés par Madame Judith Suminwa Tuluka ne manquent pas de fournir des efforts dans le seul but de mettre à condition nos vaillants FRDC et de Wazalendo pour la défense de l'intégrité de notre territoire.
Sur le plan politique, le chef de l'État a déclaré qu'il accepterait un troisième mandat si le peuple le lui demandait. Comment vous, en tant que député, interprétez-vous cette déclaration au regard des limitations prévues par la Constitution?
La Constitution est l'œuvre du peuple, c'est sa propriété. Et donc, les limites fixées dans la Constitution relèvent de la volonté du peuple. Et si ce même peuple veut revenir sur sa décision, contre qui pécherait-on? À mon avis, c'est incongru de penser qu'on peut limiter le pouvoir du peuple. Il ne faudrait pas qu'un individu, lorsqu'il donne son opinion, qu'il pense que c'est lui qui remplace le peuple. Il y a des mécanismes par lesquels le peuple se prononce et les mécanismes par lesquels on peut le consulter. Et donc, on ne peut pas prétendre limiter l'expression de ce peuple lorsqu'il doit décider sur un certain nombre de choses, sur des options par rapport à l'avenir de son pays.
Alors, les propos du président sur la Constitution relancent le débat politique. La majorité envisage-t-elle officiellement une révision constitutionnelle, notamment sur les dispositions liées au mandat présidentiel?
Ne parlez pas de la majorité, parlez plutôt du peuple qui a le droit de pouvoir modifier ou changer sa constitution. Si le peuple décide aujourd'hui de changer des dispositions relatives au nombre de mandats du chef de l'État, je pense qu'il n'y a pas de quoi discuter, il n'y a pas de quoi se demander. C'est la volonté du peuple. C'est le peuple qui est le maître du destin. C'est le peuple à qui appartient la Constitution. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir limiter l'action du peuple, limiter l'expression du peuple. Si on consulte celui-ci par voie de référendum et que l'on réalise qu'effectivement ce peuple-là a besoin de changer sa Constitution, alors où est le problème?
Le président a évoqué également la possibilité de ne pas organiser les élections en 2028 si la guerre persiste. Vous, la majorité, vous considérez qu'un report des élections pourrait être constitutionnellement envisageable dans un tel contexte?
Je pense qu'il y a lieu de ne pas considérer la guerre comme un fait anodin. Puisque si cette guerre était ici à Kinshasa, vous ne parleriez pas des élections. Ne pensez pas que Nord Kivu, Sud Kivu sont des territoires en dehors des territoires congolais et que l'on peut passer aux élections sans tenir compte de la population de ces différents territoires. La Constitution est là, mais qu'est-ce que vous voulez que la Constitution fasse devant la guerre? La RDC ne sera pas le premier pays à avoir reporté les élections du fait de la guerre. Le chef de l'État a donné l'exemple de l'Ukraine qui devait organiser les élections depuis 2 ans. Mais cela n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que il y a un cas de force majeure qui ne permet pas l'organisation crédible des élections. Faudrait pas considérer qu'il y a quelqu'un qui profite derrière cette guerre-là.
Joseph Nkoyi, je vous remercie.
C'est bien moi qui vous remercie.
Et Joseph Nkoyi, député national élu de Katakokombe, rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il est aussi membre de l'Union sacrée de la Nation. Madame, Monsieur, merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal préparé par Jude Mister Bilanda et présenté par Babène Pongo Massimango avec Jean-Claude Ciel à côté technique. Bon week-end à toutes et à tous.